La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors la dernière émission de La Voix des Arts consacrée aux créatrices au cinéma, aux pionnières. Nous étions en Allemagne au moment de la montée du nazisme dans les années 30 avec une personnalité féminine qui a gravité dans l'entourage de Hitler puisqu'elle fut sa cinéaste attitrée dans le sens où sa fonction était de produire des documentaires pour le régime nazi. Il s'agit de Leni Riefenstahl, qui fit ses débuts comme danseuse, puis devint actrice dans des films de montagne, pour ensuite devenir réalisatrice, scénariste, productrice, et gravir ainsi les échelons jusqu'à diriger toute une équipe dévouée à son service, et surtout à celui d'Hitler et de son régime. Alors aujourd'hui, nous sommes encore en Allemagne, nous restons en compagnie de Leni Riefenstahl, poursuivre avec elle son parcours. Je vous disais dans la dernière émission que c'était une femme de caractère, malgré sa façon de se présenter au monde avec une certaine affectation, quelques minauderies de séduction, mais que malgré cela, elle eut la réputation de bien savoir mener sa barque, si je puis dire, en s'arrangeant avec la réalité et en imposant son point de vue. Alors j'abordais aussi toutes les polémiques qui entouraient son personnage, pas très clair, déjà sa promiscuité avec le régime nazi, sa façon de s'attirer la couverture à elle au détriment de ses collègues. Bref, un personnage féminin, tout en contraste, qui apparaissait, en lisant tout ce qui a été dit sur elle, relativement dangereux. Alors, ceci dit, il faut reconnaître qu'elle fit des documentaires innovants et de belle qualité, impressionnants dans leur forme, qui lui ont valu des récompenses au niveau international. Alors, par rapport à tout son parcours cinématographique, un autre sujet de polémique concerne son film Tiefland, qui ici est une fiction sortie en 1954, mais sur lequel Leni Riefenstahl travailla pendant la guerre 39-40. Alors pour en dire deux mots, cette fiction d'une heure et demie qui se déroule en montagne avec berger et fermier en butte à l'égoïsme avide d'un seigneur local est basée sur un opéra d'un compositeur allemand nommé Eugène d'Albert. Et le fait est que pour les besoins du film, ce qu'on lui a en quelque sorte reproché après-guerre, eh bien, c'est que Leni Riefenstahl n'aurait pas hésité à aller dans des camps de concentration pour amener des personnes au physique typé pour lui servir de figurant en jouant des gitans. Alors, même si elle s'en défend, ce fait lui aurait été reproché parce qu'il y eut confirmation en recoupant les informations avec les listes des décédés dans les camps, que la plupart de ces figurants y étaient internés et que certains y auraient perdu la vie. Alors en tout cas, après-guerre, toujours à cause de sa promiscuité avec Hitler et de toutes ces rumeurs à son sujet, elle finira par perdre de son aura et se fera discrète en se tournant vers la photo, activité pour laquelle elle enchaînera les voyages loin de l'Allemagne et fera des reportages dans des pays exotiques pour des magazines. Et enfin, elle se mariera en 1968 avec son assistant, qui, paraît-il, n'aurait eu que 40 ans de moins qu'elle. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer de rien dans l'existence. Alors, il faut dire aussi que cette personnalité atypique devait secouer quand même pas mal son monde. Alors par la suite, elle réalisera encore un dernier film sur le monde sous-marin, à un âge plutôt avancé. Bon, j'ai lu à ce sujet qu'elle avait 100 ans. Alors maintenant, est-ce que c'est vrai? Et c'est en 1966 qu'elle publiera ses mémoires qui seront traduits en 9 langues. Elle y minimisera, paraît-il, bien évidemment sa responsabilité dans tout ce qui s'est passé lors de ces sinistres événements concernant l'avènement d'Hitler au pouvoir et les activités criminelles de son régime nazi. Alors, dans les années 90, on parle encore d'elle. C'est vraiment une célébrité qui fait l'objet à cette époque d'un film de Ray Muller intitulé Leni Riefenstahl, Le pouvoir des images, et qui est diffusé par la télévision allemande, distribué aux États-Unis, où il est présenté au Musée d'art moderne de New York. Et c'est après ce très long parcours de vie, qui est quand même pour elle une réussite professionnelle où elle a pu s'exprimer à fond et faire ce qu'elle voulait, qu'elle décédera à l'âge, eh bien figurez-vous, de 101 ans, en 2003. Ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, comme quoi elle devait avoir une sacrée nature. Alors voilà l'histoire de cette femme de talent, au caractère bien trempé, opportuniste hein, certainement, sans doute manipulatrice, hein, dans le sens où on pourrait dire qu'elle ne s'encombrait pas de préjugés ni de tracasseries de conscience, pourvu qu'elle parvienne à ses fins et fasse ainsi avancer sa carrière. Alors on peut supposer beaucoup de choses, hein, où est la vérité hein, dans tout ce qui est dit et montré. Enfin, mais quoi qu'il en soit, pour quelqu'un d'aussi près de Hitler, je trouve quand même qu'elle s'en est sortie avec brio. Alors maintenant que j'ai terminé l'histoire de Leni Riefenstahl, nous allons écouter une chanson typiquement allemande de cette époque, de la guerre, et je vous parlerai de son histoire après. Il s'agit d'une chanson célèbre dont les plus âgés d'entre nous ont certainement entendu parler, puisqu'il s'agit de Lili Marlène, et c'est l'interprétation de Marlène Dietrich que je vous propose d'écouter.
Davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich darauf. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili. Wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir. Lili Marlene.
Parlons un peu de cette chanson entendue dans L'Ange Bleu. Elle est aussi le titre d'un film plus contemporain intitulé justement Lili Marlène, puisqu'il a été réalisé en 1981 par Rainer Werner Fassbinder, film qui évoque l'amour contrarié entre une chanteuse de cabaret allemande nommée Willy, interprétée par l'allemande Anna Schigula, et Robert, musicien juif, qui lui est interprété par l'italien Giancarlo Giannini. Alors dans le film, cette histoire d'amour, hélas, arrive au moment du nazisme, hein, ce qui n'est évidemment pas le meilleur moment pour une Allemande qui rentre bien dans les normes nazies et un juif, ce qui veut dire que cette histoire ne sera pas sans créer des problèmes, puisque les événements vont séparer les deux amants. Alors lui deviendra par la suite un résistant contre le nazisme. Quant à elle, sa cote de popularité en tant que chanteuse va exploser grâce à cette chanson Lili Marlène. Et sa notoriété dépassera les frontières. Et la chanson deviendra, elle, la référence absolue pour les nazis. Bon, il est à noter que ce sera le cas dans la réalité de l'époque. Alors, il est dit aussi que cette chanson est issue d'un poème écrit en 1915 par un soldat allemand nommé Hans Lepp, poème qui s'inspire de ses deux amours, l'un avec la blonde Marlène et l'autre avec la brune Betty, surnommée Lily. Et c'est en 1937 que ce poème sera mis en musique et deviendra une chanson grâce au compositeur Rudolf Zink, lui-même en amour avec une actrice, également chanteuse, nommée Lal Andersen, à qui il dédiera la chanson. Alors l'actrice Marlène Dietrich, anti-nazie, la reprendra à son compte, l'adaptera et l'interprétera auprès de l'armée américaine pour redonner ainsi du courage aux soldats. Ce qui veut dire qu'elle se permettra de modifier les paroles ainsi que l'orthographe du prénom Marlène pour qu'il s'écrive comme son prénom à elle, et ainsi elle s'appropriera totalement la chanson. Alors il est dit aussi qu'elle en fera la chanson de la libération. Voici donc l'histoire de cette chanson très connue, diffusée presque plus que de raison à l'époque. Alors, de l'Allemagne à l'Autriche, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement pour rencontrer Louise Kolm-Fleck, une Austro-Hongroise plus exactement, qui aurait été la première productrice de films, scénariste et réalisatrice de la monarchie austro-hongroise. Alors, cette personne est née en 1873 à Vienne. Il est dit qu'elle a commencé à tourner avec son mari Anton Kolm en 1906, qui lui était propriétaire d'un studio photo, et qu'avec le caméraman Jacob Fleck, qui deviendra également son mari au décès d'Anton Kolm, ils auraient commencé à tourner dans la rue des scènes du quotidien. Alors Louis, son mari et le caméraman vont fonder une société de production qui sera dissoute pour une autre intitulée Wiener Kunstfilm, que l'on traduit par film d'art viennois. Et cette société prendra de l'importance et deviendra rapidement célèbre pour se classer comme la première grande société de production de l'Autriche-Hongrie. Et de cette société sont sortis des films divers, des documentaires, mais aussi des drames et des comédies. Alors à cette époque, dans les années 1910, les films étrangers, européens, américains inondent le marché, si bien que l'équipe composée des trois associés s'échine pour réhabiliter le cinéma austro-hongrois, quitte à stimuler la fibre patriotique de leurs contemporains. Alors la presse interviendra également de son côté pour les soutenir, et ainsi ils adapteront les romans d'écrivains locaux populaires comme de Ludwig Hansengruber ou Franz Grillparzer, pour les citer, et engageront des réalisateurs et des comédiens du théâtre viennois. Alors de tous ces films tournés entre 1910 et 1920, seuls deux films seront conservés, dont l'un serait le plus ancien long-métrage autrichien. Alors il s'intitule, un titre que je vais traduire en français, « Le Miller et son enfant », bon je ne suis pas très sûre de la traduction, quand même, tiré d'un roman de Franz Grillparzer. Alors, ils ont abordé différents genres, hein, comme le comique, le drame, le policier. Également se sont-ils intéressés à la condition féminine, surtout Louise, qui écrit les scénarios. Elle se moque même de ses semblables avec leur mode vestimentaire qui lui apparaissent plus ou moins fantaisistes. Et dans le registre féminin, elle traite également, au travers de ses scénarios et de ses réalisations, de la condition de la femme et de ses relations avec les hommes. Et elle sera aussi citée, félicitée dans la presse pour son travail de réalisatrice, notamment concernant un long métrage de 1912, maintenant disparu, intitulé et traduit en français « L'inconnu ». Alors, le décès de son mari, Anton Kolm, survient en 1922 et elle épouse 2 ans plus tard son associé Jacob Fleck. Le couple déménage à Berlin et réalise ensemble de nombreux films pour différentes sociétés. Malheureusement, le nazisme au pouvoir les envoie en 1938 au camp de concentration de Dachau, car Jacob est juif. Alors, ils réussiront, grâce à des amis, à s'échapper et partiront en Chine, à Shanghai, hein, plus exactement, où ils poursuivront des activités cinématographiques. Mais la guerre sino-japonaise qui éclate dans le Pacifique en 1941 les malmène. Et finalement, après toutes ces péripéties, eh bien, ils retourneront à Vienne en 1947. Mais ce sera surtout pour y mourir, car Louise décédera 3 ans plus tard, en 1950, et Jacob la suivra en 1953. Alors, pour notre pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson chantée par Lal Andersen, une actrice chanteuse qui se spécialisa dans la chanson de marin et qui fut l'interprète privilégiée de la chanson Lili Marlène, je vous en ai parlé plus haut, et qui, comme Sarah Leander, que nous avons déjà écoutée, fut l'une des chansons préférées en Allemagne dans les années 30-40. Bien qu'elle aurait eu également quelques démêlés avec le régime nazi au moment de la guerre 39-40, en faisant preuve d'une certaine rébellion, car elle aurait giflé un haut fonctionnaire nazi, Hans Hinkel, un peu trop entreprenant à son goût, et elle aurait refusé de chanter pour le régime. Ce qui lui a valu un assignement à résidence, la défense de chanter pendant plusieurs mois, et l'envoi de son fils sur le front russe. Et tout ceci l'incita, paraît-il, à tenter de se suicider. Bon, c'est une tentative avortée, hein, puisqu'elle continuera sa carrière encore quelques décennies. Mais nous allons l'écouter dans une chanson intitulée « Einmal sehen wir uns wieder » de 1961, qui se traduit par « On se reverra un jour », qui est une chanson plutôt agréable à écouter.
Einmal sehen wir uns wieder und vielleicht schon übers Jahr. Einmal sehen wir uns wieder, dann wird alles so, wie es war. Darum glaub an unsere Liebe, mag auch noch so viel geschehen. Denke immer daran, irgendwo, irgendwann werden wir uns wiedersehen. Der Sonntag war grau und der Himmel schwer und der Regen schlug aufs Dach. Und die Straße entlang bis hinab zum Meer sah ich dir vom Fenster nach. So viel Liebe vorbei, so viel Träume vorbei. Ich weiß nicht, wo du bist, doch dein letztes Wort klingt in meinem Herzen vor. Einmal sehen wir uns wieder.
wann werden wir uns wiedersehen?
Eh bien, figurez-vous que nous arrivons à la fin de notre parcours cinématographique en compagnie de nos pionnières au cinéma. Je suis allée dans tous les coins du globe pour les chercher et vous les présenter. S'agissant de celles qui ont participé déjà dès la fin du 19e siècle ou au tout début du 20e siècle à promouvoir ce qui a été érigé en 7e art. Bon, il est possible que j'en ai oublié, malgré leur nombre. Quoi qu'il en soit, si vous m'avez suivi, vous avez entendu qu'elles étaient monteuses, décoratrices, techniciennes, scénaristes, réalisatrices, productrices, et non pas uniquement actrices, comme l'information nous l'a laissé bien souvent croire. Et il y avait également des compositrices de films. Alors elles étaient françaises, américaines, anglaises, canadiennes, plus proches de nous des Italiennes, des Portugaises, des Allemandes, des Tchèques, Roumaines, Croates et Russes. Je les ai trouvées aussi en Amérique latine, des Mexicaines, des Argentines, aussi des Péruviennes, des Brésiliennes, des Chiliennes, dans les pays nordiques, les Danoises, les Suédoises, Finlandaises, Norvégiennes, en Asie, Japonaises et Chinoises, aux Philippines également, en Orient, des Égyptiennes, Libanaises, Tunisiennes, aussi des Turcs. Bon, j'ai fait le tour du monde, là. Et pour la grande majorité, elles ont été oubliées, même si en partie, grâce à elles, des cinéastes hommes, certains connus, ont pu se forger un destin en recevant une reconnaissance nationale, voire internationale. Alors, certaines de ces femmes, maintenant, sortent de l'ombre. Je pense particulièrement à une Française, Alice Guy, véritablement aux origines et que l'on redécouvre de nos jours et à qui on reconnaît, bon, je ne dirais pas la paternité, j'emploierais plutôt la maternité, on va dire, puisque c'est une femme. Alors il faut comprendre aussi que l'homme et la femme ont travaillé de concert à l'origine du cinéma, comme souvent dans toutes les choses de la vie. Et que si l'homme, comme dans toute naissance, a pu donner le germe, et bien la femme ici aussi s'en est emparée pour générer, voire accoucher, ce qui n'a demandé qu'à croître et aussi embellir. Et maintenant, dans les années 2000, et bien nous constatons l'ampleur qu'a pris le cinéma dans nos vies, et c'est en grande partie grâce à des femmes. Alors, en présentant ces femmes, eh bien, il m'a semblé juste de leur rendre ce qui leur revient, puisque c'est la réalité. Bon, non seulement dans le but de servir la justice, mais aussi dans celui de rétablir un équilibre entre ces deux aspects masculins, féminins, qui constituent le vivant et donc notre humanité, puisqu'ils sont faits, et ce sont des constats, pour fonctionner l'un avec l'autre, et non pas l'un contre l'autre, ou l'un au détriment de l'autre. Et ce, dans un juste équilibre des forces, comme le font les deux plateaux d'une balance. Alors pour ma part, je constate que c'est cet équilibre qui fait évoluer l'humanité, en tout cas c'est mon avis. Alors cela vaut pour le cinéma, mais aussi dans bien des domaines de l'existence. Et ce sera le mot de la fin pour cette série d'émissions consacrées aux femmes artistes dans le monde et au cours du temps, jusqu'au milieu du XXe siècle, toutes disciplines artistiques confondues, puisque je vous en ai présenté plus de 700. Et si vous m'avez suivi, vous avez beaucoup voyagé. Ce fut un périple à la mesure de mes propres aspirations, qui sont de découvrir des nouveautés et le moyen de m'ouvrir l'esprit sur d'autres réalités que les miennes. Au cours de ce périple en terre féminine, j'ai tenté de me rapprocher de chacune de ces femmes en recoupant dans la mesure de mes possibilités les informations, la plupart basées sur la réalité de faits ou au travers de leurs créations, de leurs paroles, le but étant de toucher au plus près, tant que faire se peut, la vérité. Souvent je me suis défendue d'affirmer quoi que ce soit en employant plutôt et souvent le conditionnel, de manière à avancer avec précaution, toujours par souci d'objectivité, et pour ne pas trop laisser prise aux interprétations qui seraient, elles, trop subjectives, hein, ce qui ne fut pas chose aisée. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute de La Voix des Arts, en attendant de vous retrouver, eh bien, on va dire, pour de nouvelles aventures artistiques. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.